puis aussi l'église, Centre Nouvelle Vie. Et ça fait plaisir d'être à nouveau ici, encore une fois, avec mon épouse Dina. Comme je vous ai dit la dernière fois, on est revenu à la source quelque part, parce que nous sommes des Cajuns, des Acadiens de la Louisiane. Et de mon côté, mon nom de famille, c'est Bonin. Ça vient directement de la France, mais ma mère était Hébert, et puis Dina, elle était Gautreau. Donc voilà, on a plein d'Acadiens dans nos familles. Nous sommes parents de 6 enfants. On a 3 filles et 3 garçons dans cet ordre-là. Donc, on a eu les 3 filles. On s'est dit, Seigneur, OK, on fait que des filles, nous. Et puis après, les garçons sont venus et puis on a compris qu'ils viennent dans des sets de 3. Et voilà, tous nos enfants sont grandis maintenant. Ils sont partis de la maison. On entre dans une nouvelle saison, Empty Nester Season. Et voilà, Dina a la possibilité de voyager un petit peu avec moi. Nous sommes aussi grands-parents maintenant, grands-parents de 5 petites filles. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. On attend les garçons. Mais bon, on attend du Seigneur aussi. Hein? Voilà, c'est un plaisir, un réel plaisir d'être ici parmi vous encore une fois et d'apporter le message d'aujourd'hui. Et j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je ressens l'Esprit de Dieu ici. Je ressens la présence du Dieu vivant ici. Et ça, c'est parce que ce n'est pas donné. Hein? Ce n'est pas quelque chose qui est juste automatique. Il faut cultiver cette atmosphère. Et on voit que vous cultivez l'atmosphère du Saint-Esprit au milieu de vous. Et ça fait du bien. Ça fait du bien à nos cœurs. Ça nous aide à nous rapprocher du Seigneur. Et je peux dire, je vois que ma femme a secoué la tête aussi. On ressent vraiment la présence de Dieu dans ce lieu. Et donc, nous te bénissons, Seigneur, car tu es là parmi nous. Tu es là ce matin. Et donc, j'aimerais juste prier. Avant de prêcher, j'aimerais juste prier. Seigneur, je veux te dire, Seigneur, que tu es le bienvenu parmi nous. Saint-Esprit, viens nous parler. Viens toucher nos cœurs. Viens nous faire comprendre, Seigneur, ce que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, afin que nous puissions saisir ta parole dans nos cœurs, afin que nous puissions, Seigneur, comprendre, mais aussi marcher dans la lumière, afin que nous puissions également être tes témoins, Seigneur. Nous ne voulons pas être ceux qui viennent à l'église pour être bénis seulement et puis repartent à la maison en disant « Ah oui, c'était un bon service ce matin ». Non, Seigneur, nous voulons être transformés de gloire en gloire afin que nous puissions être tes témoins vivants et afin, Seigneur, que cette région au Nouveau-Brunswick puisse expérimenter un réveil. Qu'il y ait, Seigneur, des conversions du salut, Seigneur. Qu'il y ait des vies transformées par ta grâce et par qui tu es. C'est ça notre prière ce matin. Et Seigneur, nous te prions dans le nom puissant et précieux de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc voilà, Blair et Dina, on vient de la Belgique là. On habite la Belgique, la partie francophone de la Belgique. Et puis nous sommes en Europe, en Belgique, depuis 30 ans maintenant. Ça fait 30 ans cette année que nous sommes en Belgique et nous exerçons un ministère parmi les étudiants à l'université. Donc, parmi les universitaires, et ce ministère s'appelle Students for Christ Europe. Students for Christ. Et ce sont des groupes sur les différents campus universitaires dans les différents pays de l'Europe. Actuellement, nous avons présence dans 15 pays en Europe. Et on bénit le Seigneur pour voir son œuvre accomplie. On se réjouissait juste le mois dernier parce qu'on a compté, rien que la Belgique francophone, rien que la Belgique francophone en a compté, et il y a déjà 10 pasteurs qui sont pasteurs des églises locales qui sont venus de notre ministère. Bon, ce n'est pas nous qui les a gagnés tous, hein, mais certains, beaucoup étaient déjà convertis, déjà chrétiens, mais ils sont passés par ce ministère. Ils ont compris que le Seigneur les appelait au ministère pastoral. Et maintenant, il y a 10 anciens étudiants qui sont pasteurs dans les églises en Belgique et ailleurs. Et vraiment, on bénit le Seigneur pour cela. C'est lui le maître de son œuvre. Amen. OK. On va plonger dans la parole de Dieu ce matin. Et j'aimerais vous parler des sept « Je suis » de Jésus dans le livre de Jean. Les sept « Je suis » où Jésus disait « Je suis » et autre chose. Les sept « Je suis » de Jésus dans le livre de Jean. Mais avant d'aller dans ce passage en Jean, dans le Nouveau Testament, avant d'aller là, ah et oui, j'ai mis mon clicker, j'ai oublié. Je crois qu'il est allumé. Oui. Oui, c'est bon. OK. Avant d'aller dans le Nouveau Testament, il faut qu'on retourne un moment dans l'Ancien Testament. Exode, chapitre 3. Qu'est-ce qui se passe là en Exode, chapitre 3? Dieu apparaît à Moïse et il appelle à délivrer Israël de l'Égypte. Il apparaît à Moïse dans un buisson ardent, un buisson qui prend feu. Et Moïse est choqué par ce qu'il voit, et Dieu lui parle. Et Dieu lui dit, « Je vois mon peuple qui souffre en Égypte. Ça fait 400 ans, ils sont esclaves. Et moi, je veux les faire sortir d'Égypte. Je veux les délivrer. » Alors Moïse, il est choqué, il est surpris, il est un peu, qu'est-ce que je fais ici? Qui est-ce qui me parle et tout? Et voilà, il pose une question à Dieu l'Éternel et il dit en verset 13 du chapitre 3, « Supposons que j'aille vers les Israélites et que je leur dise, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous et il me demande, mais quel est son nom, ce Dieu de vos pères? De nos pères. Quel est son nom? Parce qu'on ne le connaît pas, peut-être. Alors, quel est son nom? Alors, la réponse de Yahweh, de l'Éternel, est ceci. Je suis qui je suis. I am who I am. I am that I am. Je suis qui je suis. Donc, tu vas leur dire, Dieu dit à Moïse, tu vas leur dire, « Je suis t'a envoyé. Je suis t'a envoyé aux Israélites. » Et on voit dans la construction de cette phrase, « Je suis qui je suis », ça pourrait être également traduit de l'hébreu, « Je serai ce que je serai. » C'est-à-dire, « Je suis qui je suis, là maintenant, » et je serai ce que je serai. I will be what I will be dans le futur. Alors, on englobe le tout de Dieu vivant là. Il est dans le passé, il est dans le présent, il est dans le futur. C'est pour cela qu'on l'appelle Dieu, le Créateur. Nous, on ne peut être que dans le présent, à un moment donné. On est dans le présent maintenant. On ne peut pas vivre dans le passé. On a des souvenirs du passé. On a des aspirations peut-être pour le futur, pour l'avenir. Mais on vit dans le présent. Mais Dieu n'est pas comme nous. Hein? Il n'est pas limité comme nous. Alors Dieu, il est le Dieu du passé. Il est le Dieu du présent. Et il est le Dieu de l'avenir, du futur. Amen. Je suis qui je suis, je serai ce que je serai, il dit à Moïse. Le Dieu de vos pères, et là il évoque le passé, le Dieu de vos pères, Abraham, Isaac et Jacob, pour toujours dans le passé, je suis là, il dit. Pour toujours dans le passé, je suis là. Le nom par lequel on se souviendra de moi de génération en génération. Amen. Alors, il est le Dieu du passé, du présent et de l'avenir. Maintenant, le mot, et on va arriver au livre de Jean dans le Nouveau Testament. Le mot « je suis », « I am » montre la complexité de l'identité de Dieu. Parce qu'il est le Créateur, il est dans le passé, le présent et le futur. Et ce nom est au-dessus de tous les noms, qui rappelle aux croyants que Dieu contrôle la situation et qu'il voit ses enfants. Il nous voit. Il nous voit. Il voit notre passé. Il voit notre futur. Et lorsque Jésus a commencé dans le livre de Jean, souvent en parlant avec les gens religieux, les pharisiens, quand il parlait aux pharisiens, souvent quand il disait ses déclarations, « Je suis ceci, je suis cela », il dit « Je suis ». Mais quand il dit « Je suis », il affirme l'identité du Sauveur en tant que Fils de Dieu. Parce que quand les Juifs, quand les religious leaders, les pharisiens, les Juifs de l'époque, quand ils entendaient Jésus dire « Je suis », mais qu'est-ce qui est venu dans leur tête? Ouh! All the way back to Exodus, à l'Exode. Je suis, quand ils entendent « Je suis », mais ils pensent à Moïse. Ils pensent à l'histoire de Moïse, parce que ça, c'est dans l'époque de Jésus, ça, c'est leur Bible. Leur Bible, c'est la Torah, les cinq livres de l'Ancien Testament. Donc, quand ils entendent Jésus dire « Je suis le pain de vie, je suis le chemin, la vérité et la vie », quand ils entendent ça, ils pensent directement à l'Exode. Ah! Ben, celui-là, il parle comme il est Dieu, quoi. Il parle comme il est quelqu'un, comme il est un grand homme, comme il est Dieu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il parle comme Dieu a parlé à Moïse. C'est quoi ça? C'est Jésus de Nazareth. C'est un simple homme, c'est un charpentier. Mais quand Jésus dit « Je suis ceci ou cela », eux, ils entendent « Ouf !» Exode, Moïse, le buisson ardent, Dieu l'Éternel qui parle, je suis qui je suis. Alors ils sont confus, ils sont confondus, les leaders religieux. Mais comment cet homme, Jésus de Nazareth, peut dire une telle chose? Il se prend pour qui? Comment il peut dire ça? Je suis la lumière. Mais non, ce « je suis », ça appartient à Dieu, pas à lui qui vient de Nazareth. Alors, il y a un conflit qui arrive. Hein? Il y a un conflit. Alors, on va plonger dedans. Jésus leur dit, oh non, ça c'est la fin. Attends. Non, ça l'a fait un sens. Est-ce qu'il y a le deuxième slide? Voilà. Je ne sais pas. Ah, je dois cliquer au milieu. Ferme m'a dit. Et j'avance avec la petite flèche. OK, sorry, Fern. OK. Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. Et dans ce chapitre, nous voyons que Jésus dit ça 4 fois. En verset 35, verset 41, verset 48 et verset 51. Quand la Bible nous dit quelque chose à maintes reprises, quand la Bible répète la même chose, ça veut dire que c'est important. Que c'est important. Jésus met l'accent, l'emphase sur ça 4 fois dans le même chapitre. Je suis le pain de vie. Jésus établit un modèle qui se poursuit tout au long de l'évangile de Jean. Jésus fait une déclaration sur qui il est et qu'est-ce qu'il va faire après. Il fait une déclaration sur qui il est et puis il va appuyer dessus. Il va soutenir ce qu'il dit. Voilà. Dans ce cas présent, Jésus déclare qu'il est le pain de vie juste après avoir nourri 5000 personnes dans le désert avec 5 petits pains et 2 poissons. Tu vois, Jésus appuie ce qu'il dit. Quand il dit quelque chose, il va le prouver. En même temps, il oppose ce qu'il peut faire à ce que Moïse avait fait pour les ancêtres. Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Les Juifs sont en train de penser, oui, nos ancêtres ont mangé la manne, dans le désert. Mais eux, ils sont morts. Et Jésus dit, voici le pain qui descend du ciel, que chacun peut manger et qui ne meurt pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Il ne meurt pas, mais tout le monde meurt à un moment donné. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire des choses spirituelles que les leaders religieux ne comprennent pas. Regarde-moi ça. Jésus dit, je suis le pain de vie. Le pain de vie, il est. Où est-ce que Jésus est né? Dans quelle ville il est né? Bethléem, hein? Il est né à Bethléem. Vous savez ce que Bethléem veut dire? Bethléem veut dire maison du pain. Jésus dit, je suis le pain de vie. Il est né à Bethléem. Bethléem veut dire maison du pain. Où est-ce qu'on l'a placé quand il est né? Dans une mangeoire. Ça vient d'où ça, le mot mangeoire? Manger. On l'a placé dans une mangeoire où les animaux mangent. Il est le pain de vie. Il est né dans la ville qui s'appelle Maison du Pain. On l'a placé dans une mangeoire où les animaux mangent. Qu'est-ce que nous devons faire avec le pain avant de le manger? Quand on prend le pain qui n'est pas coupé en morceaux comme ça déjà, un pain entier, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rompre, il faut le briser, il faut le briser. Jésus est le pain de vie, il est né dans la maison du pain, on l'a mis dans un mangeoire où les gens mangent, les animaux mangent, et quand on prend la Sainte Cène, la communion, ça imite le fait que Jésus était rompu, brisé sur une croix romaine. Ce pain de vie qui est Jésus est rompu sur une croix romaine afin que nous puissions goûter et voir que le Seigneur est bon. Qu'il a donné la vie et son corps pour nous. Il donne son corps à l'Église, tout comme le pain donne la vie au corps physique quand on le mange. Ça nous donne la vie, le pain. Alors, quand Jésus dit « Je suis le pain de vie », c'est comme une bombe, hein? C'est quelque chose qui va secouer les leaders religieux. Je suis, se rappelle à Moïse, je suis qui je suis. Et puis, il commence à dire, je suis le pain de vie. Ça, c'est la première chose. Alors, qu'est-ce que... Ben, je le fais encore. Est-ce que tu te nourris? Là, ça, c'est la question d'application pour le premier point. Est-ce que tu te nourris quotidiennement du Christ par la prière, la lecture de la parole de Dieu, les Écritures et la communion dans sa présence? On a besoin de ça. On a besoin de ça. Est-ce que tu te nourris de ce pain de vie de jour en jour? Jésus dit, « Je suis le pain de vie ». Deuxièmement, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde ». Jean 8, 12, et encore, Jean 9, 5. Deux fois, c'est important. « Je suis la lumière du monde ». Cette deuxième déclaration de Jésus dans l'évangile de Jean intervient juste avant qu'il ne guérisse un homme né aveugle. Jésus dit, je suis la lumière du monde, et puis qu'est-ce qu'il fait? Il va guérir un homme qui est dans les ténèbres, qui ne voit pas. Et il va enlever les écailles physiques de ses yeux, et il va voir. Il va voir la lumière, alors qu'il était plongé dans les ténèbres avant. Jésus dit, je suis la lumière du monde, et puis il le prouve. Il guérit quelqu'un aveuglé. Il ne se contente pas de dire quelque chose seulement, il le prouve. Et les paroles et les actions de Jésus font écho à la Genèse, chapitre 1, quand Dieu a dit « Que la lumière soit, et la lumière fut ». Jésus fait écho de ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Mais il le fait maintenant devant les Juifs. Je suis la lumière du monde. N'est-il pas intéressant de constater que lorsque les musulmans, par exemple, se convertissent, quand ils viennent à la foi en Jésus-Christ, souvent, bien souvent, la manière dans laquelle ils viennent au Seigneur, c'est parce que dans un rêve ou dans un songe ou dans une vision, ils ont vu un homme tout en blanc, brillant de lumière. Et cet homme va parler souvent dans leur rêve et leur dire « Qui suis-je ?» Quand ils demandent « Qui êtes-vous ? Qui es-tu ?» Il dit « Je suis Jésus, la lumière du monde. » C'est exactement ce qui s'est passé à Saul de Tarse. Vous vous souvenez, en acte 9, Saul est sur la route de Damas, et qu'est-ce qui se passe? Jésus va apparaître à Saul, il va tomber de son âne, et comme il a approché de Damas sur son chemin, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'était la conversion de Saul, qui est devenu l'apôtre Paul, n'est-ce pas? Alors, Jésus est la lumière du monde. Quand les gens viennent, et surtout les gens qui n'ont pas un arrière-plan chrétien, des musulmans, des bouddhistes ou d'autres viennent au Seigneur, souvent, ils voient Jésus éclatant, brillant de lumière, parce que Jésus est la lumière du monde. La lumière dissipe les ténèbres. La lumière apporte la clarté. La lumière montre le chemin à prendre. Dans un monde rempli de confusion, incertitude, de décadence morale, Jésus reste la lumière parfaite et pure. Il démasque les mensonges du péché et il nous guide sur le chemin de la justice et de la repentance. Là où il y a des ténèbres dans ta vie, qu'il s'agisse de peur, d'anxiété ou de tentation, tourne-toi vers Jésus. Laisse sa lumière inonde ton cœur et ta vie afin que tu sois délivré, afin que tu vois la lumière du monde qui est Jésus-Christ, afin que tu tournes de ta mauvaise voie et tu fais un 180 et tu marches dans l'autre direction. Amen. Amen. Jésus est la lumière du monde. Marches-tu dans la lumière du Christ? Est-ce que tu marches dans la lumière de Christ? C'est la question pour nous aujourd'hui. Troisièmement, Jésus dit, je suis la porte. Je suis la porte. Jean 10, verset 7, encore verset 9, cette déclaration, je suis de Jésus, souligne que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux par un autre moyen que Christ lui-même. Les paroles de Jésus dans ce passage sont formulées dans l'imagerie d'une bergerie. Il est le seul et unique moyen d'entrer dans la bergerie. En vérité, il dit, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y entre par un autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. C'est ce que Jésus dit. Il dit, je suis la porte, il faut entrer par moi. Si tu entres des autres côtés, si tu montes le mur pour entrer, ce n'est pas correct, ce n'est pas bon. Je suis la porte. Et dans cette déclaration, deux fois, il mentionne à nouveau, contrairement au voleur. Qu'est-ce que le voleur fait? Jean 10, 10, il vient pour dérober. Tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Amen. Amen. Et quand on réfléchit aux bergers, parce qu'on a beaucoup de bergers en Europe, quand on réfléchit aux bergers, les bergers conduisaient leurs troupeaux dans des enclos de pierre. Donc, il y a des petits murs en pierre tout autour, un enclos. Et ils conduisaient les troupeaux dans les enclos de pierre chaque nuit pour les protéger. Mais souvent, ces structures, ces murs en pierre n'avaient pas de porte. Il y avait juste un trou, un chemin, pour entrer dans l'enclos. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Il n'y a pas de porte. Comment va le berger, comment va-t-il protéger le troupeau? Le berger, il s'asseyait à l'entrée de l'enclos. Il s'assied là ou il va se coucher là la nuit. Il va dormir là, à l'entrée de l'enclos, pour protéger ses brebis contre les attaques des loups et d'autres animaux qui veulent détruire les brebis. Alors, Jésus dit, « Je suis la porte. Je suis la porte. » La question se pose alors, es-tu entré par la seule porte qui est Jésus-Christ? As-tu trouvé la paix pour ton âme dans la personne de Jésus? Jésus est la porte. Et puis, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger, il dit. En Jean 10, versets 11 et 14, et avec cette déclaration, je suis, Jésus dépeint son grand amour et sa sollicitude. Il est celui qui protège volontiers son troupeau jusqu'à la mort, comme je viens d'expliquer. Lorsque Jésus s'est appelé lui-même le bon berger, il a clairement repris à son compte, un des titres de Dieu dans l'Ancien Testament, le plus grand, psaume 23, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Le Seigneur est mon berger. L'Éternel est mon berger. Jésus dit, je suis le bon berger. Amen. Encore une fois, il dit à ma entreprise, il nous connaît par notre nom. Il nous guide, il nous protège. Et même lorsque nous nous égarons du bon chemin, il nous cherche. Il va venir nous chercher. Il va laisser les 99 et il va chercher la seule brebis qui s'est perdue. Il nous cherche. Il nous poursuit parce qu'il nous aime. C'est une image de l'amour divin de Dieu. Un amour si grand qu'il s'est donné lui-même pour notre rédemption. Alors la question se pose, fais-tu confiance au bon berger pour guider ta vie? Écoutes-tu sa voix? Et puis Jésus dit, je suis la résurrection et la vie, en Jean 11, 25. Je suis la résurrection et la vie. Jésus a fait cette déclaration. Et immédiatement avant de ressusciter, Lazare, il a déclaré. Alors, encore une fois, Jésus dit quelque chose, je suis la résurrection et la vie, et puis il le soutient, il le prouve. Il ressuscite Lazare d'entre les morts. Et une fois de plus, nous voyons que l'enseignement de Jésus n'était pas un simple discours. Il y avait l'action derrière. Jésus détient, Apocalypse nous dit, les clés de la mort et de la tombe. En ressuscitant Lazare, Jésus a montré comment il pouvait accomplir la promesse faite par Yahweh à l'ancien Israël. Il ne promet pas seulement la vie éternelle après la mort, mais aussi une vie abondante ici maintenant. La mort n'a pas de prise sur ceux qui sont en Christ. Hier, je suis allé à côté ici à Dieppe pour me faire couper les cheveux. J'avais un rendez-vous et j'ai parlé avec un étudiant qui est là. Il vient de l'Iran et il est là déjà 2 ans, je crois. Et comme c'est mon habitude, je dis, Seigneur, s'il y a une possibilité que je parle avec cette personne, donne-moi l'occasion, donne-moi un rendez-vous divin. Et alors, je parle avec ce gars. Et puis, je lui dis à un moment donné, et il me demande, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je dis, oh, ça c'est facile, je suis pasteur. Et il dit, c'est quoi? Il y a des gens aujourd'hui, mes amis, qui ne savent même pas ce que c'est un pasteur. Parce qu'il vient d'un autre point de vue, une autre religion du monde. Il a dit, c'est quoi? J'ai dit, un pasteur, c'est comme un imam. Donc, sa religion à lui, les leaders religieux, on les appelle imams dans la mosquée. J'ai dit, c'est comme un imam, mais c'est dans le christianisme. Oui, je ne connais rien du christianisme, il me dit. Et j'ai dit, ah, mais on peut en parler si tu veux. Et puis, on parlait, et puis à un moment donné, il me dit, tu sais, j'ai dit, j'ai focalisé sur la personne de Jésus. La personne de Jésus et le message de Jésus. Je ne focalise pas sur la religion. Je focalise sur la personne de Jésus. Et parce qu'à un moment, il me dit, oui, mais je ne peux pas changer ma religion. Je dis, je n'ai pas demandé que tu changes ta religion. Mettons la religion à côté et parlons de Jésus. La personne de Jésus, parlant de son message, de ce qu'il a dit, pourquoi il est venu, pourquoi il s'est donné à nous pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'on ait le pardon du péché, pour qu'on ait la paix intérieure dans notre vie, Donc, je lui explique et il écoute. Il a dit, oui, mais je ne peux pas changer ma religion parce que c'est un death sentence pour moi. Si je retourne dans mon pays et je change de vin chrétien, on peut me... J'ai dit, je sais. C'est pour cela que je ne te parle pas de la religion. On laisse ça du côté pour le moment et on focalise sur la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus est venu te dire? Comment il veut te toucher, te changer ta vie? Qu'est-ce qui t'appelle à faire? Alors, on a eu une bonne discussion et je savais que je n'allais pas le voir à nouveau. Donc, je lui ai dit, comme il est jeune, je me suis dit, ah, peut-être il aime les vidéos, les films et tout ça. Et donc, je lui ai dit, j'ai une application sur mon téléphone. Et donc, j'ai dit, tu as un iPhone, un Android ou quelque chose? Oui, oui. Et donc, j'ai dit, tu vois, c'est une série qui s'appelle The Chosen. Vous connaissez peut-être The Chosen. Alors, je lui ai dit, si tu as le temps, regardez quelques morceaux, quelques versions dans la série. Et il dit, OK, ça s'appelle comment? Donc, j'ai attendu, je voulais qu'il télécharge directement là. Hein? Donc, j'ai dit, ça s'appelle, regarde mon téléphone, ça s'appelle The Chosen. Ah, OK, The Chosen. OK, il a recherché, il a téléchargé sur son téléphone. Et puis, je lui ai dit, maintenant, il faut que tu ailles voir ça. Et tu regardes et tu écoutes le message de Jésus. Et tu regardes la personne de Jésus. Et Dieu va te parler. Il va te parler. Alors, j'ai planté une semence. La Bible nous dit, on plante, on arrose, mais Dieu fait croître. C'est Dieu qui donne le fruit. C'est le job du Saint-Esprit. Ce n'est pas mon job à moi. À un moment donné, peut-être j'aurai la possibilité de prier avec quelqu'un et que cette personne se convertisse. Alléluia, si ça peut se passer comme ça. Mais souvent, on plante et quelqu'un d'autre va venir après arroser. Et quelqu'un d'autre va venir et puis récolter après nous. Amen. Alors, on saisit les occasions que Dieu nous donne de jour en jour. Car Jésus est la résurrection et la vie. Alors, est-ce que tu vis avec l'espérance de la résurrection? On vient de célébrer Pâques, il n'y a pas longtemps. La résurrection, mes amis, la résurrection de Jésus-Christ, c'est la base du christianisme. Paul l'a dit, si Jésus n'a pas ressuscité, mais qu'est-ce que je fais dans la vie, moi? Qu'est-ce que je fais en prêchant ce nom de Jésus s'il n'est pas ressuscité? Et ça, c'est la différence entre toutes les religions du monde. La seule personne qui s'est ressuscitée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bouddha est toujours dans sa tombe. Mohammed est toujours dans sa tombe. La seule personne qui est ressuscitée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Amen.
La résurrection et la vie. Et puis finalement, il dit, bon, je ne sais pas si c'est finalement, mais il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Cette puissance déclaration du Christ, je suis, est plein de sens. Jésus n'est pas simplement un chemin parmi d'autres. Il est le seul chemin. L'Écriture nous dit que l'essence même des paroles de Dieu est la vérité. 119, 160. Et Jésus proclame qu'il est la vérité, confirmant son identité en tant que parole de Dieu. Jean 1:1. Jean 1:1. Au commencement en français. Je l'ai en anglais dans ma tête. Say it. Tell us in French. Au commencement, était la parole de Dieu. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Était Dieu. Et est toujours Dieu. il ne s'agit pas tant de dire que Jésus est le seul chemin de Dieu, mais on dit que Jésus est le seul chemin de Dieu, oui, ça c'est vrai, mais on dit aussi que Jésus, il est venu, il est Dieu qui est venu à nous. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, il est le seul chemin, et ce chemin, il est venu vers nous aussi. Je clique. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Tu peux avancer, Philippe? Voilà. Est-ce que tu fais confiance à Jésus comme étant le seul chemin à Dieu? Le seul chemin à Dieu. Une fois, j'étais en Belgique et je conduisais et j'ai pris un autostoppeur. Un autostoppeur qui faisait l'autostop. On dit en Belgique, faisait hitchhiker. Hein? Faisait du pouce. OK. Il faisait du pouce. Alors, il était là et souvent, bon, quand je suis aux États-Unis, je ne prends pas des autostoppeurs, c'est un peu trop dangereux. Mais quand en Belgique, c'est souvent les étudiants qui font l'autostop. Alors, je l'ai pris. Il est monté dans la voiture. Il a entendu mon accent. Il me dit, tu viens d'où? Je dis, je viens de la Louisiane, aux États-Unis. Ah, tu fais quoi en Belgique? Ah, je suis pasteur. Ah, OK, pasteur, oui, oui, moi. Je dis, est-ce que tu connais un peu du christianisme, la personne de Jésus, etc.? Oui, oui, je connais. Bon, je ne suis pas chrétien, hein? Je suis né catholique, non pratiquant. Je ne crois pas en beaucoup de choses, mais je crois en moi et je crois que, bon, Jésus a dit des bonnes choses, mais Mohamed a dit des bonnes choses, Bouddha a dit des bonnes choses aussi. Donc, pour moi, il dit, je combine, je fais mon propre credo. J'ai dit, oui, mais... Non, on entre dans la conversation. Jésus disait, je suis le seul chemin et la vie. Je suis le chemin, le seul chemin vers Dieu. Personne ne entre en relation avec Dieu que par moi, il dit. Donc, je lui ai dit, comment tu peux aimer ce que Jésus dit et ne pas faire ce qu'il dit? Parce que tu ne peux pas dire tu aimes ce qu'il dit et puis tu aimes l'autre dans l'autre religion aussi. Donc, on entre dans une discussion et je plante une semence. Parce que qui sait qui va venir après moi? Et souvent, quand je fais ça, je demande à la personne, est-ce que je peux prier pour toi? Parfois, les gens disent, non, 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 tu peux prier chez toi. Hein? OK. Ou si je dis, je peux prier pour toi, et souvent la personne va dire, oui, tu peux prier pour moi. J'ai dit, OK, maintenant, je peux prier maintenant. Et la personne est souvent choquée. J'ai dit, oui, maintenant. OK, parfois la personne dit, OK, donc je prie. Souvent, tu pries pour la personne te regarde comme ça pendant que tu pries. Hein? Mais peu importe, l'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu peut faire quelque chose. Et quand tu pries, une fois j'ai prié sur le campus universitaire avec quelqu'un, j'étais en train de prier, la personne me regardait comme ça. Mais quand je continuais à prier, toutes les 5 secondes, j'ouvre mes yeux pour voir, la personne est là devant moi. Et puis, à un moment donné, il y a les larmes qui commencent à couler. Parce que le Saint-Esprit est là pour toucher la personne, pour toucher le cœur de la personne. Saisissez les occasions que Dieu nous présente, mes amis. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep ou la vraie vigne. Jean 15, versets 1 et 5. C'est la dernière déclaration métaphorique. Ce sont des métaphores. Je suis le pain, je suis la porte, je suis la vie, je suis la vigne. Ce sont des métaphores que Jésus emploie. Je suis la vraie vigne. C'est la dernière déclaration métaphorique dans l'évangile de Jean et il met l'accent sur le pouvoir de soutien du Christ. Nous sommes les sarments, nous sommes les branches et il est la vigne. Et de même qu'un sarment ne peut porter de fruits s'il n'est pas en union, attaché, en union vitale avec la vigne, seuls ceux qui sont unis au Christ et qui reçoivent leur force de lui puissent produire des fruits dans la vie chrétienne. Il est la source. Il est notre source, notre subsistance spirituelle. Et lorsque nous sommes connectés avec lui, nous vivons, nous nous déplaçons, nous avons notre être, nous existons en lui. Amen. Et sans lui, nous sommes morts, nous sommes inutiles. Sa vie coule en nous et nous fait produire du fruit. Donc Jésus souligne notre besoin de rester connecté avec lui de jour en jour. Amen. Alors la question se pose, est-ce que tu demeures en Christ? Et est-ce que lui, il demeure en toi? Est-ce que tu passes du temps dans sa présence? Est-ce que tu t'appuies sur sa force à lui quand tu ne peux plus? Quand tu n'as plus de force, est-ce que tu t'appuies sur lui? Qui est ce Jésus? Celui qui pourvoit pour nous, notre lumière, notre protecteur, notre berger, notre résurrection, notre vérité, notre vigne. C'est ça, Jésus, dans ma vie. L'évangile de Jean contient encore deux autres affirmations de Jésus de type « je suis ». Les deux dernières, ce n'est pas des métaphores, mais regarde ce qu'il fait. Il va déclarer quelque chose du nom de Dieu tel que Jésus s'applique à lui-même. La première fois, Jésus répond à une plainte des pharisiens. Et puis, il répond, « Je vous dis la vérité, déclare Jésus, avant qu'Abraham fût, je suis. Avant qu'Abraham n'existe, je suis. » Ça, c'est une autre bombe qu'il a laissé détonner. Hein? Parce que quand ils entendent le « je suis », ils se rappellent de Moïse. Ils se rappellent de Dieu éternel qui s'est manifesté à Moïse. Et Jésus de Nazareth va dire la même chose. Ça, c'est la première. Jésus dit, en vérité, je déclare, avant qu'Abraham fût, je suis. Jean 8, 58. Et puis, la toute dernière, c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémané. Il va mourir bientôt. Il prie son Père. Il demande à son Père, si cette coupe puisse être enlevée, je le désire. Mais néanmoins, Père, pas ma volonté, mais la tienne. Pas ma volonté, mais la tienne. Et lorsque la foule est venue dans le jardin pour l'arrêter, pour arrêter Jésus avec les soldats romains, avec Judas qui l'a trahi, il leur a demandé, les disciples et Jésus, demandez aux soldats, qui est-ce que vous cherchez? Vous cherchez qui? Vous cherchez qui? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. On cherche Jésus de Nazareth. Et Jésus répondit en français, dans la version française, il est marqué, c'est moi. Dans la version anglaise, il est marqué, I am he. Et quand il a prononcé ces mots, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés par terre, comme ils étaient morts. Et il y a une telle puissance dans la déclaration de Jésus. Et vous savez quoi? Dans la langue originelle du Nouveau Testament, le grec, ce n'est pas « c'est moi », ce n'est pas « je suis lui ». Qu'est-ce qui est marqué dans le grec? Qu'est-ce qui est marqué dans le grec? Je suis. Je suis. Dans le grec, that's all. Je suis. Alors, quand il dit « I am », boum, il tombe à terre. Pourquoi? Parce que la puissance de Jésus, il est investi avec la puissance du Dieu le Père. Il est Dieu. Et quand les gens entendent « Je suis », « I am », ils pensent à Moïse. « Je suis qui je suis ». Alors, Jésus a déclaré ça, ils sont tombés par terre. La réaction de la foule explique peut-être par le fait... Non, ça c'est, j'ai expliqué ça déjà dans la traduction. Désolé. Alors, il dit ça. Jésus ne s'est pas contenté d'un discours positif sur lui-même. Lorsqu'il a fait ses déclarations « Je suis », ses déclarations audacieuses, sachez qu'il est vraiment Dieu incarné, le Messie qu'ils attendaient, le Dieu très haut dans la chair. Alors, je vous laisse avec ceci. Nourrissons-nous du pain de vie. Marchons dans la lumière du monde. Franchissons la porte du salut. Suivons le bon berger. Vivons dans la puissance de la résurrection de Dieu. Faisons confiance au chemin, à la vérité et la vie, et demeurons dans la vraie vigne. Ainsi soit-il. Levez-vous avec moi, on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour qui tu es, pour ce que tu fais, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour ta parole qui nous montre la vie, qui nous donne la vie, qui nous montre le chemin vers Jésus. Merci, Seigneur, pour qui tu es dans notre vie. Merci, Seigneur, pour ce que tu as continues à faire dans notre vie. Merci, Seigneur, pour les opportunités que tu nous donnes de jour en jour, Seigneur. Merci, Père, parce que tu n'as pas fini avec nous. Tu n'as pas fini avec nous, Seigneur. Quel que soit notre temps dans le Seigneur, quel que soit notre âge sur terre, nos années sur terre, quelle que soit l'origine d'où nous venons, Seigneur, tu n'as pas fini avec nous. Tu veux nous mobiliser pour toi. Tu veux que nous soyons tes témoins, Seigneur, des témoins vivants qui partent, puis qui partagent, Seigneur, avec les gens autour de nous, ton évangile, ton message, ta vie. Alors, Seigneur, ce matin, je te prie que tu sois avec mes amis, que tu sois avec eux, que tu puisses les bénir, Seigneur, qui puissent méditer sur ta parole, ce que nous avons entendu aujourd'hui, qui puissent méditer pendant la semaine et que tu leur montres, Seigneur, le chemin à suivre. Que tu leur montres, Seigneur, que tu leur donnes des rendez-vous divins aussi, afin qu'ils puissent témoigner de toi. Seigneur, on a besoin de voir un réveil. Ici, dans la région de Chidiac, on a besoin que tu touches notre communauté. On a besoin, Seigneur, que tu touches nos familles, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs, Seigneur. On a besoin que tu travailles dans nos familles, Père. Fais en sorte, Seigneur, qu'alors que nous te suivons, tu fasses des miracles, des miracles dans les vies, Seigneur. Seigneur, fais des miracles, je te prie. Nous prions, Seigneur, nous avons entendu ce matin qu'il y avait des réponses à la prière qu'on a faite. Le petit est sorti de l'hôpital, le frère est sorti de l'hôpital. Nous prions, Seigneur, pour ces miracles, encore et encore. Et nous te demandons, Seigneur, que tu fasses de nous tes témoins. Oh Seigneur, sois avec nous pendant la semaine. Sois avec nous pendant cette semaine, Seigneur. Et guide-nous dans toute la vérité. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Si tu es là ce matin et s'il y a quelque chose que j'ai dit, je n'aime pas rater les occasions d'inviter les gens à parler, à prier. Si tu as besoin de la prière après, je suis là pour prier avec toi. Si tu veux dire quelque chose, si tu veux me parler, je suis là parce que je sais que parfois, Dieu, par son esprit, il travaille nos cœurs. Et nous avons besoin de parler un petit peu ou on a besoin de la prière après. Parfois, on fait un appel et parfois, on se met à côté. Et on reçoit les gens pour prier. Donc, je vous invite, s'il y a un sujet que vous voulez prier pour ce matin, moi, je suis là, mon épouse est là, Fern est là, les autres responsables de l'Église sont là. Mais sachez que Dieu est avec nous et il va nous conduire dans la semaine à être ses témoins vivants. Amen. Que Dieu vous bénisse.